Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour, bienvenue sous notre ciel. Évidemment, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission pour parler de la qualité de l'air. Qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, en tous les cas, qu'elle soit de meilleur en meilleur pour que l'on respire, je dirais, sainement, sereinement, pour profiter pleinement de notre vie en bonne santé, bien évidemment. Alors, pour cette santé, aujourd'hui, on va parler des différentes évolutions, hein, notamment des seuils de l'OMS qui ont été revus, pour quelles raisons. On va en parler avec le docteur Pierre Souvet, qui est le président de l'ASEF, l'ASEF, Association Santé Environnement France, et c'est vraiment important notre environnement et notre santé, de mettre mot, je dirais, extrêmement prégnant. Pierre, bonjour, bienvenue parmi nous une nouvelle fois.
Bonjour Nicolas Blondet.
Comment allez-vous?
Eh bien, je suis à Marseille, devant le château d'If, là, qui est à quelques portées de Brasse, et sous un beau soleil, voilà, c'est un peu inquiétant en février, mais bon. C'est magnifique.
Eh bien, Pierre, alors, nous parlions il y a quelques instants pour le sujet de l'émission aujourd'hui, des différents seuils qui ont évolué au niveau de l'OMS, au niveau de la prise en compte de l'air extérieur. On va parler des particules, on va parler de l'ozone, notamment dioxyde d'azote. Dites-nous quelques mots sur ces seuils qui ont évolué, pourquoi? Et ensuite, on va détailler ensemble également quels sont les effets sur notre santé de ces polluants.
Oui, donc l'OMS a modifié les valeurs, pas seuil, mais les valeurs, les cibles de qualité, on va dire, qui jusqu'à maintenant, pour parler des particules fines, notamment les particules fines 2,5, qui, je vous rappelle, sont relativement faciles à mesurer puisqu'on les pèse, contrairement aux particules ultra fines, les plus petites, qu'il faut compter. Et c'est pourtant celle-là dont il faudra tenir compte dans les années à venir, ce que dit l'OMS d'ailleurs. Et donc, avant, il fallait habiter Helsinki pour avoir une qualité de l'air qui soit très très bonne, avec un seuil à 10 microgrammes par mètre cube. Pour rappel, la France et l'Europe ont un seuil réglementaire qui n'est pas un seuil sanitaire à 25 microgrammes par mètre cube, alors que les États-Unis, par exemple, depuis pas loin de 10 ans, sont à 12, que le Canada et l'Australie sont encore en dessous, et donc se rapprocher, eux, plus, beaucoup plus des valeurs références de l'OMS qui étaient à 10. Et l'OMS l'a baissé à 5 au vu de 3 études, et d'ailleurs 2 études nord-américaines, au Canada, dans des collectivités, aux États-Unis, sur plus d'un million 300 000 personnes, qui étaient donc exposées là-bas à des valeurs qu'ils considéraient, ces fameux en dessous de 12, qui étaient considérées comme déjà un air de bonne qualité. Et même en dessous donc, de ces valeurs, qui sont deux fois moins importantes qu'en Europe, eh bien, la mortalité, en fait, qu'elle soit globale ou cardiovasculaire, augmente dès le début. Il n'y a pas de seuil en dessous duquel la mortalité n'augmente pas. Alors évidemment, elle est moins importante à 5 microgrammes par mètre cube qu'à 20 microgrammes par mètre cube. C'est une courbe qui va monter assez linéairement. Mais donc l'OMS, pour donner un seuil de qualité, ne pouvait donc se baser sur la valeur minimale, en disant que si on la respectait, mais 80% des décès dus à la pollution de l'air seraient évités.
80%, c'est quand même
une troisième étude.
Oui. 80%, c'est vraiment colossal. Hein. On est vraiment sur des niveaux de prise en compte qui vont permettre évidemment de nous amener du meilleur. Petite question avant que vous continuiez. Les particules, quel effet ont-elles? On parlait des 2,5. Quel effet ont-elles sur notre respiration, sur notre santé, pour éclairer un petit peu plus nos auditeurs?
Donc les particules, donc dans la pollution atmosphérique, il y a les particules et les gaz. Pour les particules, la toxicité dépend de leur taille. Donc plus elles sont petites, plus elles vont pénétrer l'arbre respiratoire, provoquer de l'inflammation, puis pénétrer dans le système cardiovasculaire et par plusieurs réactions, notamment d'oxydation du mauvais cholestérol. Ce mauvais cholestérol oxydé va pénétrer dans des cellules, dans des globules blancs, va se transformer en macrophage et ils vont envoyer des lassos sur la paroi artérielle et vont aller pénétrer la paroi artérielle. C'est pour ça que les premières pathologies liées à la pollution de l'air, c'est les pathologies cardiovasculaires et je dirais cardio-neurovasculaires, parce que les accidents vasculaires cérébraux sont évidemment à prendre en compte avec les cardiopathies ischémiques, l'infarctus ou les artères du cœur qui se bouchent. Et donc, c'est les pathologies les plus importantes. Après, vous avez les pathologies respiratoires, évidemment, puisqu'il y a une inflammation du système respiratoire, les cancers, parce que ces particules, petites ou plus petites, sont entourées et sur elles se greffent des produits toxiques. C'est comme un cheval de Troie. Et donc, ce cheval de Troie va faire rentrer dans l'organisme notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont la plupart sont cancérigènes, des métaux lourds, même des pollens, hein. Tout ce qui traîne va s'accrocher à la particule et la particule va la rentrer dans votre organisme. Donc, une série de pathologies cardio-neurovasculaires. Évidemment, le fœtus est touché puisque le placenta, c'est un organe sanguin, je dirais. Donc, on sait par exemple qu'une maman exposée à la pollution de l'air aura des enfants de plus petit poids de naissance, qu'une mère exposée à la pollution de l'air, pour parler surtout à ce moment-là des gaz qui sont les dioxydes d'azote, aura plus de risques d'avoir un enfant asthmatique, tout comme un enfant en bas âge exposé à la pollution aura plus de chances de devenir asthmatique. On parle beaucoup de l'ozone.
On peut parler de choix d'être asthmatique sur le sujet, mais c'est plutôt légèrement inquiétant de savoir qu'on voit que de plus en plus jeune, on va être atteint sur l'intégralité de notre vie. Quelles peuvent être, on reparle de ces particules, quelles peuvent être à ce moment-là, Pierre, comment se préserver de ces particules ou quels vont être les gestes qui vont nous aider à diminuer ces particules?
Eh bien,
c'est complexe, c'est vaste et c'est un gros travail.
Il faut d'abord un travail collectif, évidemment, dans la ville pour cartographier, évidemment, la pollution. Elle est très hétérogène. Hein. Mm-hmm. Les rues où il y a beaucoup de trafic, les rues avec leur morphologie, si elles sont très serrées, on appelle ça les rues canyons, la pollution de l'air va s'accumuler dans ces rues, et notamment ces particules ultra fines qui après vont se condenser entre elles pour en former des plus grosses. Donc, ça dépend où on habite. Après, il y a les gestes du quotidien, là où je vais me promener, là où je vais aller faire du sport. Et évidemment, il faut, mon slogan à l'époque à la Fédération française de cardiologie, c'était pas de jogging sur l'autoroute. Il faut évidemment s'aider éventuellement des applications. Et souvent, c'est instinctif, hein. On va faire du sport dans un parc parce que la pollution est en général, s'il n'y a pas de trafic, est nettement inférieure à la pollution dans les rues. Donc, c'est très difficile à titre individuel si les mesures collectives ne sont pas prises. Tout à l'heure, je parlais avec des collègues des zones à faible émission, donc c'est important. Le tout, c'est qu'elles soient calculées pour ne pas reporter de la pollution en périphérie. Donc, les gens de la zone à faible émission vont être en meilleur état, très probablement, puisque les particules, c'est entre 40 000 décès par Santé publique France à 97 000 décès par une autre étude de Harvard, très sérieuse, qui montre que c'est un enjeu majeur. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 80% si on tombait à 5, 80% de ces décès prématurés seraient évités. C'est vraiment un enjeu de santé publique considérable. Et donc, voilà, savoir où on va aller se promener, mais il faut des mesures collectives. Réduction de la pollution de l'air dans la ville. Peut-être pour aller à l'école avec le bébé dans sa poussette, avoir des trajets protégés pour pouvoir marcher, parce que c'est bon de marcher, mais au bon endroit.
Et puis, vous savez, les bébés dans les poussettes sont plus bas vers le niveau de la route, notamment au niveau des pots d'échappement des véhicules et des émissions. Et là également, c'est un réel problème parce que.
C'est exactement ça. C'est un réel problème. Donc, il y a des mairies, je sais, qui font des trajets un petit peu protégés, justement, pour aller vers l'école, voir une zone autour de l'école où les gens doivent se garer un peu plus loin pour que l'arrivée dans l'école soit le plus safe possible. Puis après, vous avez évidemment à l'intérieur, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que l'air intérieur, une grande partie des pathologies, là aussi essentiellement dues aux particules, sont dues à l'air extérieur. Donc, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans la construction notamment des écoles, dans les prises d'air des écoles, par exemple. On va se concentrer sur ça, mais si les prises d'air sont dans la rue où il y a du trafic, si l'école est tournée vers la rue où il y a du trafic, c'est quand même assez stupide. Et donc, il faut arriver à réfléchir globalement à la fois sur l'exposition et sur les mesures qu'on va prendre dans sa maison, dans l'école pour limiter la pollution, parce que c'est comme dans votre voiture. C'est comme une boîte fermée. Si vous n'aérez pas cette boîte fermée, la pollution va s'accumuler à l'intérieur.
Et puis elle va adorer rester, surtout. Elle va adorer rester cette pollution dans la boîte fermée. Ce qui veut dire, ce qui voudrait dire donc, on sait qu'on a des filtres à pollen sur nos véhicules. Ce qui voudrait dire également qu'on ait le même réflexe ou plutôt la même technicité à adopter à nos bâtiments, puisque quelque part, vous nous dites, hein, l'air extérieur a un gros impact sur l'air intérieur, même si on sait que l'intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Mais ce qui veut dire que lui, au niveau particulaire ou au niveau de l'ozone ou du dioxyde d'azote, il y a un moment donné, il va peut-être falloir que l'on filtre l'air qui va rentrer.
Et oui, moi déjà, quand les gens ont une voiture, je leur dis, quand vous rentrez dans votre voiture le matin, parce qu'il y a les émanations des colles qu'il y a dans la voiture, par exemple du formaldéhyde qui est cancérigène, qui se passe. Donc, en plus, si vous trimballez un bébé, vous rentrez dans votre voiture, vous aérez votre voiture au moment où vous allez démarrer. Et puis après, si vous êtes dans un tunnel, ben, vous mettez le truc intérieur, là, le cycle intérieur, puis dès que vous sortez du bouchon du tunnel, vous aérez. Et votre maison, bien sûr, vous l'aérez aux heures les meilleures, hein. Si il y a bouchon devant chez vous, vous ciblerez les heures un peu moins compliquées. Donc en fait, c'est à la fois des mesures collectives de réduction de la pollution et des mesures individuelles d'adaptation, je veux dire de protection, qui sont pas parfaites, mais l'enjeu est important. J'aime bien parler de l'ozone aussi. L'ozone, c'est pas le pire, mais néanmoins, donc c'est des gaz entre la chaleur, les oxydes d'azote. Et le soleil forme un gaz qui s'appelle l'ozone, hein, qui a surtout une toxicité respiratoire. Il y a quand même quelques centaines de décès, en tout cas des difficultés respiratoires, des crises d'asthme qui peuvent être augmentées. Mais là aussi, c'est pareil. L'ozone se formant dans la journée avec ce chaleur, eh bien, le premier truc, si vous faites du sport, faites-le plutôt le matin avant que le nuage d'ozone apparaisse. C'est assez simple. Il faut faire du sport, il faut faire de l'activité physique, mais pas... Un jour, un président de la République a eu un malaise en faisant du sport en plein après-midi par 40 degrés. Et un journaliste m'avait interviewé et j'avais dit, ça avait fait le tour du pays, on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel âge. Et bien là, c'est pareil, on ne va pas se faire du sport n'importe comment, par n'importe quelle température et à n'importe quel endroit. On réfléchit un peu à ce qu'on fait, sans s'angoisser, bien sûr. Puisque
ce qui veut bien dire que quel qu'on soit président ou simple ou citoyen, hein, il n'y a pas de simple citoyen, il y a des citoyens, chacun doit prendre en considération nos éléments. On a la chance maintenant d'avoir de plus en plus d'informations, hein, on a les sites Atmo France pour savoir un petit peu ce qui se passe, on a également différents sites comme Reco Santé où on va connaître nos niveaux de pollution par commune déjà, au niveau particulier, au niveau ozone, vous en parlez, au niveau des pollens également, hein, puisque on sait qu'on a quelques sources, notamment, par exemple, quand on est sur la période de l'ambroisie, c'est extrêmement allergène et irritant et réactif. On avance, ça veut peut-être dire, alors si cette prise en compte est tout un chacun de se dire, bah, je vais faire du sport maintenant, je vais aérer, je vais faire attention, je monte dans mon véhicule, j'ouvre. Également dans le véhicule, on met pas la ventilation ou la clim tout de suite parce que c'est vrai que il y a un dépôt qui se fait et qui relargue beaucoup de choses au moment où on remet en route. Mais ce qui veut dire qu'on est en train de repenser et d'avancer sur repenser nos lieux de vie et notamment repenser l'urbanisme par rapport à l'air intérieur et de l'air extérieur bien par incidence. Je sais que notamment Pierre, ça c'est un sujet que sur oui. lequel vous appliquez et vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus, notamment biodiversité, santé également, tout cela s'est associé. Dites-nous-en un petit peu plus.
Donc là, j'ai fait deux interventions, par exemple aux urbanistes de Gironde et du Vaucluse, parce que les urbanistes, comme les architectes, comme les élus de votre collectivité, sont des acteurs de santé. Nous, on est des professionnels de santé, donc je suis cardiologue, tu as oublié de préciser, mais tout le monde est peut-être acteur de santé ou acteur de sa santé. Et donc, l'urbanisme permet, notamment en introduisant la nature en ville, et pas seulement, de diminuer, en fait, la mortalité globale. Une grosse étude aux États-Unis où, si vous habitiez à moins de 150 mètres d'espace vert, c'est des infirmières qu'on a suivies toute leur vie, vous aviez 12% de mortalité en moins par rapport à ceux qui en étaient le plus éloignés. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça réduisait l'agression de la ville. Hein. La ville, c'est du stress, c'est de la pollution de l'air, c'est du bruit aussi qui a un impact. Les îlots de chaleur. Et donc, la nature en ville diminue tous ces facteurs de stress et améliore la mortalité, améliore le bien-être. Mais le bien-être fait partie de la santé. On l'oublie trop souvent. La santé, ce n'est pas seulement pas de, pas de, d'infirmité ou de maladie, c'est un bien-être mental, physique et social. Les relations sociales sont un déterminant de santé et souvent les espaces verts sont un élément, un endroit où ils sont favorisés. Mais ce n'est pas le tout de mettre un espace vert dans votre ville, c'est que l'architecte et le constructeur de l'immeuble aient réfléchi, c'est-à-dire, là aussi, comment il a orienté son immeuble. Est-ce que l'espace entre les immeubles est suffisant? Est-ce que le passage de l'air pour à la fois refroidir la rue, puisqu'on va avoir de plus en plus de problèmes à chaleur, mais aussi la ventiler, est pris en compte? Est-ce que les prises d'air de l'immeuble sont prises en compte? Est-ce que la ventilation de l'immeuble ou de la maison, alors qu'on sait, on en a beaucoup discuté, que 50% du neuf et de l'ancien ont une ventilation qui n'est pas conforme et pas suffisante, la ventilation de votre air intérieur étant un élément fondamental de la bonne qualité de l'air intérieur. Donc, il y a plein, c'est vraiment une vision globale qu'il faut. C'est pas simplement dire, ah ben, je fais l'immeuble là, donc je réfléchis globalement à ce que je mets, comment je construis l'immeuble, ce que je mets autour et à toutes les conséquences donc, que ça peut provoquer.
Moi, je rajouterais, Pierre, si vous le permettez, sur cette qualité de l'air notamment, vous parlez de la VMC, du bon dimensionnement, des bonnes entrées d'air, de filtrer peut-être l'air aussi qui rentre dans notre bâtiment. Ne pas oublier, on entend beaucoup parler de capteurs, ce qui n'est pas idiot du tout, mais on entend parler de capteurs, d'épurateurs. Le premier des bienfaits, c'est qu'à partir du moment où notre VMC est bien dimensionné, que les volumes d'air brassés nous donnent un air sain, hein, puisque on a le droit de respirer un air sain, on a le droit d'être en santé, hein, c'est le droit fondamental, il a été positionné dans une loi bien entendu. Ces VMC, en fait, elles sont le premier, ou l'aération, c'est le premier des bienfaits que l'on peut faire pour nos bâtiments. On parle de tout en général, hein, dans nos lieux de travail également, faut pas les oublier, ou dans nos lieux de transport. Ça, c'est extrêmement important. Vous parliez d'îlots de chaleur, c'est vrai que là, on peut faire une petite projection sur l'avenir. Nos villes, on a déjà vu des exemples qui sont donnés également. Vous parliez de cette circulation d'air importante, primordiale même pour rafraîchir. On sait très bien qu'on va avoir 10-12 degrés d'écart entre une rue bétonnée ou une rue plutôt bitumée, et à avoir également une rue où on va se retrouver avec des plantations, des arbres qui vont amener cette fraîcheur, couper l'arrivée du soleil et éviter cette réverbération aussi de chaleur depuis le sol qui monte dans les bâtiments. Ça, c'est extrêmement important.
Oui, notamment par exemple là à Bordeaux où j'étais, il y avait entre deux immeubles un espace extrêmement étroit et haut. Donc, là, il n'y avait pas d'arbres, on peut le comprendre, puisqu'il y a peu d'ombre qui rentre. Mais par contre, dans cette rue en pleine chaleur, la nuit, normalement, plus vous avez d'ouverture au ciel, plus la rue va se rafraîchir. Or là, comme les immeubles sont très serrés, ce n'est pas le cas. Donc là, il ne faut pas mettre des arbres à la limite, mais il faut mettre un sol végétal, justement, qui permettra à la base de la rue de ne pas trop se réchauffer et donc, la nuit, avoir des températures qui soient correctes. Je vous dis, c'est vraiment une vision globale. Et vous avez parlé des capteurs de CO2 tout à l'heure. C'est des capteurs de confinement. Donc, on peut penser que plus vous êtes en vase clos, plus le CO2 va être élevé. Donc, plus il y aura de particules, plus il y aura de toxiques dans la maison. Donc, c'est un marqueur intéressant qu'on devrait diffuser beaucoup plus, qui nous dit à ce moment-là, ben, il faut aérer. Et le message, on a trop tendance à dire qu'il ne faut pas sortir à cette heure-ci, attention, pic de pollution. J'ai la sensation qu'il va falloir l'inverser, qu'il va falloir dire « Ah, maintenant, c'est peut-être le bon moment d'aller se promener, sous-entendu l'air est le meilleur à ce moment-là. » Donc, arriver à donner un message positif plutôt que donner un message négatif.
Le regarder de cette manière, c'est toujours évidemment la bonne chose, du bon côté pour se rendre la vie facile, parce qu'on sait très bien que la nature humaine, quand elle entend parler de contraintes, il y a un blocage qui se fait et on ne veut pas y aller, on ne veut pas aller vers ce sens-là. On le dit toujours dans l'émission, c'est pas difficile de bien faire, mais chaque jour, on a un petit point à améliorer ou un point à assurer de continuer de bien le faire, et notamment, comme vous le disiez, sortir quand il fait bon. Bon pour nos poumons, mais bon pour nous, hein, parce qu'on a aussi besoin du soleil sur nos visages, sur notre peau. C'est extrêmement important.
Et je m'excuse, Nicolas, je voulais rajouter... Pourquoi on ne fait pas les choses qu'on sait qui sont meilleures? Eh bien, c'est l'histoire du moi, du nous et des autres. Quand ça nous concerne, nous, quand c'est moi, et là, en l'occurrence, ça nous concerne, on a tendance à agir. Quand on dit c'est les autres qui en sont responsables, on aura tendance à pas agir. Donc, quand vous prenez ces nouvelles résolutions, faites-les pas à pas. Hein, vous n'allez pas vous changez vos habitudes, votre cohérence habituelle, la changez d'un coup, faites du pas à pas et faites-le pour vous. Et du coup, les autres en profiteront. Donc, le moi, c'est important. Il n'y a pas de honte à prendre soin de soi. Et donc, faites-le.
Donc, ce sera le mot de la fin pour notre qualité de l'air, pour notre ville, notre urbanisation, nos lieux de vie. Ça veut dire soyons bien avec nous-mêmes et ça rejaillira bien évidemment sur tous les autres et on sera bien ensemble. Ben, ça, c'est une belle note positive. Pierre, je vous remercie encore d'être venu dans Element Air, mon cher Nico. On se reverra, ça c'est promis, hein, c'est pas la première fois qu'on se retrouve, c'est toujours un plaisir. On est un peu jaloux, vous êtes à Marseille, il fait très beau aujourd'hui, et bien, profitez-en bien, on va prendre ce soleil, on voit que vous êtes bien avec vous-même, ça rejaillit aujourd'hui sur nous. Merci encore Pierre, chères auditrices, chers auditeurs d'Element Air, à la prochaine fois. Si vous voulez aussi, pour petit rappel, ASEF.fr hein, pour avoir toutes les informations importantes ou aussi sur les sites de l'OMS pour connaître un petit peu les directives mondiales puisque elles sont quand même dans le sens de bien mieux faire. Pierre, à très bientôt. Prenez soin de vous. Chères auditrices, chers auditeurs également, prenez soin de vous. Et cet Element Air pour bien respirer. Au revoir.
Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.